Handicapé Action, des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Walter Molondi.
Bonjour, non, bienvenue à bord. Donner son sang, c'est sauver des vies. La survie de nombreux patients dépend de la transfusion sanguine et donc du don de sang. Ce don se fait généralement dans les établissements de transfusion sanguine ou lors des collectes mobiles organisées en différents endroits. Qui peut donner son sang? Est-ce un acte librement consenti, accompli ou une source de profit financier sera tout à l'heure? Des routes et des cercles agricoles sont réhabilités et des semences multipliées. Objectif, encourager l'agriculture dans les périphéries de Kananga. Ces actions sont signées Groupe Action Pastorale Massarané. Cette ONG met l'accent sur la multiplication des boutures saines de manioc, de maïs et autres semences. Un semestre d'action sur terrain, c'est ce qui s'est passé à Kisangani et dans les environs. Les œuvres de Caritas diocésaines qui volent au secours des vulnérables à Kisangani. Près de 2500 ménages déplacés de guerre, prise en charge médicale et nutritionnelle pour 1500 enfants atteints de kwashiorkor. Autant d'actions à l'actif de Caritas Développement à Kisangani. Vous n'avez pas votre propre maison, vous êtes locataire, il arrive que le préavis soit la source de conflit avec le propriétaire de la maison. Kolonda Kwatomboki, qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'il y a mésentente au sujet de l'exécution du préavis? Nous apaisantirons là-dessus avec des responsables communaux en charge de l'habitat pour qu'ils nous expliquent comment ils gèrent ce genre de conflit. Quoi vous dire, sinon bienvenue dans cet espace radiophonique consacré à la vie au quotidien telle qu'elle se déroule chez vous. Vous pouvez participer à ce magazine en appelant au 081 890 63 94 ou en nous envoyant un message email ou SMS à action@radiookapi.net. Héritier Sidiakala est à la mise en onde, assisté de Eddie Marquis. Nathalie Moutouba fait la régie, au micro c'est Walter Moulin. Voilà, on vous le disait tout à l'heure, ça va revenir en héritier, hein. Tout va bien. Les auditeurs ne savent pas ce dont je parle. Mais bon, Eddie Marquis vient de me rejoindre en fait il y a quelques semaines à Radio Okapi. Et il faut vous habituer à ce nom, parce que c'est grâce à lui maintenant que vous nous suivez. Donner son sang est un acte à la fois humanitaire et capital pour de nombreux patients dont la survie dépend d'une transfusion sanguine. Pour ce faire, il est indispensable de collecter le sang dans des établissements de transfusion sanguine, mais également lors des collectes mobiles organisées dans les écoles, églises, pour ne citer que ces endroits-là. Mais une question se pose, qui peut donner son sang? Et qui, pour une raison ou une autre, ne peut le faire, soit temporairement, soit définitivement. Le don de sang, est-ce un acte que les différents donneurs posent avec le même élan d'amour et d'engagement, ou il y a quelque chose d'intéressé là-dedans? Je ne sais pas, ou pas encore. Enfin, parlons-en avec Marcel. Bonjour, Marcel Ngombo.
Bonjour, Walter. Bonjour, chers auditeurs.
Qui peut être donneur?
Écoutez, Walter, selon le docteur Paul Kabamba, qui est médecin au Centre National de Transfusion Sanguine, peut être donneur de sang toute personne âgée de 18 à 65 ans, mais jouissant d'une bonne santé. Et on rencontre généralement trois catégories de donneurs. Il y a les donneurs bénévoles, qui sont ceux qui donnent volontairement leur sang. Il y a les donneurs familiaux qui donnent leur sang parce qu'un membre de famille est dans une urgence transfusionnelle. Et enfin, les donneurs rémunérés, c'est-à-dire qui font le don de leur sang moyennant une certaine somme d'argent.
Bon, on peut noter que ça peut paraître un comportement tout de même regrettable lorsque l'on sait que le don de sang devrait en principe demeurer un acte librement accompli, avec pour seul but de sauver une vie. Mais est-ce qu'une telle pratique, en dehors de l'aspect profit financier peut-elle représenter certains risques en rapport avec la sécurité transfusionnelle?
En tout cas, pour le docteur Kabamba, le risque ne sont pas à écarter du moment qu'une telle personne est plus animée par des intentions mercantiles, car le don du sang est un acte responsable. Bien souvent, la sécurité du malade qui va recevoir le sang dépend de la sincérité des réponses du donneur lors de l'entretien avec le médecin de prélèvement, suivant les explications du docteur Paul Kabamba du Centre national de transfusion sanguine.
En fait, imaginez que cette personne-là a fait une semaine sans manger et qu'il a eu un comportement potentiellement contaminé et qu'il s'est contaminé. Il a besoin d'argent. Il vient chez le médecin, on fait ce qu'on appelle le counseling pré-don. Il ne va pas tout dire au médecin. Parce que s'il dit tout, le médecin va l'écarter et il n'aura pas d'argent. Or, quand il ne va pas tout dire, on prélève. Or, quand on prélève chez cette personne-là, nous savons que en matière de VIH, il y a tout ce qu'on appelle la fenêtre diagnostique. Donc, tu peux te contaminer aujourd'hui. Une semaine après, on fait le test, tu seras toujours séronégatif. Deux semaines après, on peut aller jusqu'à 3 mois. Bon, si cette personne-là a fait un comportement une semaine avant de donner son sang, et qui n'a pas dit au médecin, de peur de se voir écarté, de ne pas avoir son argent, il n'a pas dit au médecin qu'il avait un comportement contaminant et qu'il s'était contaminé ce jour-là, nous allons faire le test. On ne va rien trouver dans ce sang-là. Et le sang-là, quand on va le transfuser, donc cette personne-là sera contaminée. En fait, c'est pour cela que nous nous demandons toujours, même aux personnes qui sont dans les banques de sang, tout autour, tout ça, quand il y a un problème comme ça, que la personne, parce que nous devons quand même éduquer notre communauté, que la communauté sache que ce comportement-là, c'est un comportement à risque. Un membre de sa famille, en faisant cette pratique, risque d'être contaminé. Or, s'il se contamine, c'est la catastrophe. Donc, comme nous, on s'intéresse, on ne travaille qu'avec les donneurs bénévoles, c'est comme ça que nous sommes en train de faire la promotion des dons pour que toute la communauté puisse faire le don de sang, leur vie quotidienne, quoi.
Docteur Paul Kabamba du Centre national de transfusion sanguine, donner son sang, c'est sauver des vies. Et donc, pour prévenir tous ces risques, le Centre national de transfusion sanguine, on vient de l'entendre, ne prend que les donneurs bénévoles et encourage ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent, à devenir donneurs bénévoles. Marcel, dites-nous, où est-ce qu'on trouve cette catégorie des donneurs et qui monnaie leur don de sang? Parce que vraiment, ça vaut son pesant d'or cette question.
Il faut dire, Walter, en dehors du Centre national de transfusion sanguine, il existe des banques de sang dans plusieurs centres hospitaliers au niveau de la ville de Kinshasa. Et il y a notamment l'hôpital général de Kinshasa, où aux alentours des banques de sang, parce qu'on le sait, cet hôpital reçoit le plus grand nombre d'urgences transfusionnelles. Et il y a souvent des donneurs qui sont aux alentours des banques de sang. S'il nous a pas été facile de délier la langue à ces donneurs, nous avons néanmoins pu recueillir les témoignages d'une dame et je vous propose de suivre.
Nazaki na mama et moi, on a sali 2 mois. Balobi avaba opéré les qui n'avaient il faut maquila. Laquelle la banque dit ça pour la somme maquila. Oh, groupe 1 a isalité, il fallait, n'a ben aba donateur, baya, bape sa maquila na somme. Batu bazalaka wana na nina, ba ba vandi wana na ba moko ba fanda kawana, ba teka maquila. Baya ko vanda la bangwana ba, bato baza, komo la baza la maquila et belé, les opes sa bango pas, baza pe na moyen ya revivre, te, bakoya wana ba prélevé ba ron maquila. Au foot, il y a 2000 francs. La ZUPD de donateur, va payer maquila. Là, va payer maquila, les qui n'ont pas opéré l'opération, va s'arrêter qui était à Koufi. Pour la Zambo, on a vu la banque du sang. Docteur, à moi, si tu commences à discuter, il y a un peu de temps, on a vu. Oh, banque du sang, deux lignes de sous, on a vu donateur. Pourtant, il y a une banque du sang. Il fallait tout ce que maquila. Voilà,
un témoignage qui interpelle encore une fois la nécessité qu'il y a d'avoir davantage de donneurs bénévoles. Le sang, de façon à permettre à nos banques de disposer d'un grand stock. Cela permettra de répondre suffisamment aux besoins transfusionnels. Marcel, vous avez parlé de une catégorie de personnes qui peuvent se constituer donneurs de sang, mais y a-t-il des personnes, bien qu'étant animées de bonne volonté, ne peuvent être acceptées pour une raison ou une autre de donner leur sang?
Il existe en effet des personnes qui sont d'office écartées, soit temporairement pour des raisons de maladie ou des conditions physiologiques, ou alors soit définitivement pour également les mêmes raisons. Suivant les explications du docteur Wetu Wembonyama Cécile, qui est assistante au laboratoire du Centre national de transfusion sanguine.
Il y a certaines maladies qui contre-indiquent au don du sang. Ça peut être transitoire, tout comme ça peut être définitif, donc temporaire si on peut dire, et définitif. Temporaire, c'est comme je prends l'exemple d'une personne qui fait des crises tensionnelles avec des hauts chiffres, qui dépassent les normes. Quelqu'un comme ça, qui n'équilibre pas sa tension, c'est quelqu'un à qui on demande de voir un médecin, d'équilibrer sa tension, d'équilibrer ses périodes de crise. Et quand il a équilibré, il a des chiffres tensionnels dans les normes, c'est quelqu'un qui peut faire son don du sang. Il y a aussi des personnes qui ont un faible poids, inférieur à 40 kg, inférieur à 45 kg. Ce sont des personnes d'office qui ne peuvent pas donner le sang, mais vous voyez déjà que ce sont des personnes où c'est temporaire. Quand il aura atteint un poids requis, il va faire son don sans problème. Une femme en début de grossesse, une femme qui allaite, une femme pendant ses menstrues, une femme qui vient de subir une intervention chirurgicale, toutes ces personnes dans cette période, temporairement ou temporairement, sont d'abord exclus du don du sang. Nous prenons un autre cadre des personnes qui sont définitivement exclues au don du sang. Comparativement à l'âge plus de 65 ans, nous sommes désolés. C'est un risque pour nous de pouvoir prélever chez ce genre de personnes. Et avec la vieillesse, ils ont des pathologies qu'ils acquièrent. Il y a des personnes qui ont des cancers, genre des cancers de sang. Tout cela dépendra de la sélection du médecin.
Voilà donc des explications bien précises, l'objectif au final étant évidemment d'avoir dans la banque de sang un sang de qualité, parce que l'objectif du don de sang et de la construction des banques de sang, c'est de sauver des vies. Il faut dire que lorsque vous avez besoin d'une transfusion, vous ne le savez jamais, vous ne le prévoyez jamais. Et c'est grâce à des personnes de bonne volonté qui ont accepté de donner leur le sang bénévolement que vous êtes sauvés. Alors, joignez-vous à cette équipe des sauveurs de vie. Marcel, merci beaucoup.
Merci, Walter.
On se retrouve tout à l'heure. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 081 890 63 94.
Perdu mon boulot, on m'a piqué mes papiers. J'ai voulu jouer au foot, je me suis encore blessé. J'ai cassé mon auto, une platine turbo. J'ai perdu yo chassé, j'en ai pas un cassé. J'ai cassé ma vie, j'ai même pas de CD. Mon d'abord j'ai fermé, yo, plus trop d'un côté. Toutes mes jeux pour pleurer, ma conscience est tirée. Plus d'électricité, le DF a coupé. Hey, je suis pas dernier, c'est qu'à te dire. Je vais pas pleurer quand y'a bien pire. Même si la musique qui peut rien, allons brûler la fiche, ça ira mieux demain. Oh. Y'a des hauts, c'est tout beau, les plans passent sans accro. C'est tous les jours la fête, en même temps c'est sucé. Y'a des hauts, y'a des bas, c'est comme ça que tu crois. Si c'est pas ça la vie d'un homme c'est quoi. Y'a des jours où t'as vite, y'a des jours où t'es vite. Nos jours pour ma vie. J'suis incognito, prévu ta photo. J'la mets les lunettes noires, ça fait pas chez nous. Mais si la musique n'est plus rien, allons brûler la piste, ça ira mieux demain. Y'a des hauts, y'a des bas, mais j'fais le travail. Y'a des hauts, y'a des bas, mais j'fais le travail. Yeah, yeah, yeah.
Au Capi Action 081 890 63 94, nous parlons du don de sang. Ces gestes sauvent des vies. Je le disais tout à l'heure, lorsque vous êtes hospitalisé, lorsque votre maman, votre papa, votre frère, votre sœur, un proche, un ami est hospitalisé, qu'il a besoin de sang, et s'il l'obtient, c'est grâce à une catégorie de personnes. Ces personnes ont accepté de poser un geste, de se constituer donneur bénévole, et leur sang a été mis en banque, et c'est grâce à ces sangs-là que votre proche a été sauvé. S'il n'y avait pas cette catégorie de gens, il y aurait peut-être eu la catastrophe. Joignez-vous à cette équipe des sauveurs de vie qui acceptent de donner leur sang. Rendez-vous dans le centre le plus proche de chez vous pour obtenir les conseils qu'il faut pour savoir si, oui ou non, vous pouvez donner votre sang et qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution pour maintenir votre sang, en tout cas, le moins sale possible pour qu'il n'y ait pas eu beaucoup de travail après pour les sécuriser. C'est un appel qui est lancé régulièrement et nous le répétons. Vous allez entendre bien de bonnes choses tout de suite parce que nous recevons Dr Musongela. Bonjour docteur.
Bonjour.
C'est vous le directeur du Centre National des Transfusions Sanguines. Nous parlons du don de sang. On comprend, on a entendu tout à l'heure certains de vos collaborateurs nous expliquer qu'il y a des gens qui peuvent être temporairement ou définitivement exclu de poser ce geste-là. Est-ce que vous pouvez nous repréciser cette catégorisation?
Je voudrais d'abord remercier Radio Capi pour l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui de continuer à parler de ce 14 juin qui est la journée où l'humanité tout entière s'arrête pour dire merci à cette catégorie de personnes dont vous venez de parler et qui contribuent à sauver des vies humaines. Catégorie, il faut d'abord dire qu'il y a trois types de donneurs de sang. Il y a les donneurs familiaux ou les équivalents. Il est toujours très difficile de dire que la personne qu'on vous présente fait partie de la famille. Nous avons suivi dans les reportages la maman qui faisait, à qui on indiquait au niveau de l'hôpital général, des gens assis sur les bancs pour acheter du sang. C'est la deuxième catégorie, les personnes rémunérées. Alors la grande catégorie, celle qui doit de plus en plus dans nos pays africains et aussi chez nous, constituer les grands groupes, ce sont les donneurs bénévoles. Et cette catégorie sur laquelle est basée toute sécurité transfusionnelle. Le sang vient d'une personne, il faut que cette personne soit une personne qui donne volontairement son sang et qui les donne régulièrement, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, et c'est celle qui est concernée surtout par la fête, le remerciement, le moment que l'humanité entière s'arrête pour dire merci.
Pour le 14 juin, on a couvert évidemment, et cette émission c'est une seconde en l'espace de quelques jours pour continuer à en parler.
Merci.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, docteur Musongela, le Centre national de transfusion sanguine est prêt, c'est-à-dire a du stock pour faire face éventuellement. Est-ce que vous avez le stock optimal?
Oui, absolument. Le Centre national, que ce soit ici ou bien ailleurs en province, doit toujours être attentif aux besoins de la communauté. Il y a des périodes, c'est connu, des périodes de grande consommation en sang. Non pas que les chirurgiens opèrent plus cette période-là, non. Il y a des mouvements saisonniers, il y a des périodes où il y a une grande prévalence des cas de malaria. Et vous savez que les grands consommateurs du sang, ce sont nos enfants, mm-hmm. de moins de 5 ans, et les femmes enceintes. Et alors, la période où il y a le plus d'accès palustre, donc ça va nécessiter beaucoup de sang. Et les centres mobilisent à ce moment-là, se tournent sur vers les donneurs pour faire des collectes, des campagnes, des sensibilisations plus... Bon, nous sommes dans notre pays où tout le monde parle un peu de la date du 30 juin, de la date de l'indépendance, et tout comme ça. Mm. Au niveau du Centre national de transfusion sanguine, on s'est dit, écoute, il peut y avoir des manifestations. Mm. S'il y a des manifestations, s'il y a des dérapages, mm. les centres de Kinshasa, que ce soit Bandalungwa, l'université, un peu, nous sommes organisés pour quoi? Si jamais on a besoin du sang dans des institutions hospitalières à ce moment-là, mm-hmm. et que ça ne puisse pas manquer. Mm-hmm. Parce que nous devons toujours être prêts pour sauver les vies humaines.
Pour prévenir. Oui.
Et donc, je dis, oui. pour compléter encore ma question, mm. est-ce qu'il y en a assez? Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il faut que les gens continuent à
s'y intéresser. Il n'y en a jamais assez.
Jamais.
On en a toujours besoin.
Absolument.
Voilà
Absolument.
Le message qu'il faut retenir. Alors, il y a des gens qui sont exclus temporairement ou définitivement de poser ce geste malgré la bonne volonté. Il y a des catégories que Dr. Cécile Ouattou Wemonyama a évoquées tout à l'heure. Mais il y a une question d'un auditeur de Lubumbashi qui s'appelle Pierre Kamoy qui voudrait savoir, est-ce que quelqu'un atteint de l'hépatite B peut-il donner son sang?
Non, justement. Et donc ça complète la liste que le docteur Cécile était en train à citer. Mm. Donc, voilà quelqu'un qui donnait son sang et qui donnait régulièrement son sang. À un certain moment, on lui découvre des marqueurs infectieux qui sont l'hépatite B ou l'hépatite C, y compris le virus du sida. Quoi. Mm. C'est fini. À ce moment-là, il est exclu de façon définitive. Il rejoint donc la catégorie de ceux qui étaient des anciens donneurs, et puisqu'ils viennent de faire ce que nous appelons la séroconversion, donc le virage, voilà, des gens qui étaient testés négatifs, pour une raison ou une autre, ils se sont infectés, et ceux-là vont rejoindre la grande catégorie des exclus de façon définitive. Les exclusions temporaires, il l'a dit, bon, si quelqu'un fait une fièvre d'origine qui n'est pas très connue, ou bien à la suite d'une intervention chirurgicale, il est exclu de façon temporaire. Donc, hépatite B, hépatite C, ou toute autre maladie infectieuse qui est celle-là, il est exclu de façon définitive.
Peut-être une petite parenthèse, est-ce que l'hépatite B ou C peut se soigner arriver à une situation où ça redevient négatif après?
Oui. Des situations où une hépatite B revient négative, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Un grand nombre de gens entrent en contact avec le virus de l'hépatite B. Et après X temps, donc d'ailleurs ça passe souvent inaperçu, un grand nombre vont fabriquer des anticorps, donc vont à ce moment-là éliminer leur virus, et d'autres vont constituer cette catégorie qu'on appelle les porteurs chroniques et qui sont infectieux. Ils ont en eux leur virus, ils ne parviennent pas à s'en débarrasser, à fabriquer des anticorps pour maîtriser ces virus. Et ce genre-là, une catégorie va évoluer vers des maladies qui sont les maladies chroniques du foie. Je parle de la cirrhose, je parle de cancer. Et il y a d'autres maladies d'organes qui sont provoquées par l'hépatite B. Il en est de même avec l'hépatite C, dont on ne connaît pas très très bien les devenirs. Et on sait qu'une grande partie, une bonne partie, parviennent à éliminer. Mais d'autres, non moins importantes, font une maladie chronique qui est beaucoup plus grave que pour l'hépatite B.
Je pense qu'on devra en parler un jour parce que c'est lié au sang,
c'est fréquent
à la chaîne de...
Et c'est fréquent, c'est en plus important qu'il faut en parler parce que dans nos pays, au niveau de nos différents centres, 8 à 12% de la population sont infectés par l'un ou l'autre de ces virus. Et donc, c'est important. Hépatite B ou C. Et l'hépatite B, 8%. Donc, c'est plus que la moyenne pour l'hépatite et pour les virus du sida. Et où nous sommes, bon, la moyenne va de 1 à 7%, mais en fait, la moyenne générale chez la femme enceinte, par exemple, c'est 4,6.
On a dit même qu'une femme enceinte ne peut pas donner son sang.
Non, bien sûr, parce qu'elle a besoin de ce sang, elle a besoin du fer, elle a besoin de... elle ne peut pas, c'est pas possible. Et d'autant plus que son taux d'hémoglobine est un peu plus bas d'ailleurs que ce qui requis pour pouvoir être admis à donner le sang.
L'autre aspect de la question de Pierrot de Lubumbashi, c'est est-ce qu'une personne qui n'a pas mangé pendant 3 jours peut aussi donner son sang?
Non, bien sûr, parce que ne pas manger depuis 3 jours, il s'est tombé à l'hypoglycémie et à ce moment-là, il va tomber à l'hypoglycémie. Non pas parce qu'on lui a enlevé la quantité, la petite quantité de sang, il va tomber dans les pommes, faire une réaction, mais c'est surtout parce que, bon, 3 jours sans avoir mangé, on n'a pas assez de force.
Tout à fait. Changa Chakatumba de Kalemi, qui voudrait savoir, le sang donné par un volontaire est-il vendu après au patient ou est-il donné gratuitement?
Voilà, c'est une question importante. On a entendu d'ailleurs dans les reportages, la maman parlait de Kosumba Makila, Nasumba Kimakila. On n'achète pas du sang. On n'achète pas. Et si à partir du moment où on dit le sang c'est la vie, et je donne mon sang pour sauver des vies humaines, est-ce que ça a un coût, le geste que je pose? Et bon, je reviendrai en parlant de ce merci-là, de ce 14 juin. Les gens participent aux frais, parce que ce sang-là va subir tout un tas de procédures. D'abord, on ne se branche pas sur la personne, de veine contre veine, pour faire de sorte que la personne qui manque du sang, le sang passe directement. C'est pas possible. Ce sang doit d'abord être prélevé, obtenu à partir d'un groupe qu'il faut aller toucher, qu'il faut sensibiliser. Et aller, ces mouvements de promotion du don dans la communauté, ça a un coût. Et on va utiliser du matériel pour prélever le sang. Et conserver le sang dans une poche qui a aussi un coût. Et ce sang va subir tout un tas d'analyses. Nous avions parlé des hépatites, les virus du sida recherchés. Et donc, toutes les analyses qu'on appelle qualifier le sang, la qualification biologique de ce sang, faire de sorte que ce sang est mauvais, doit être éliminé, qui n'est pas conforme, ce qui est bon, on va le transfuser. Et ce sang doit être conservé quelque part. Et tous ceux qui manipulent, ce sont des gens qui ont formé et qui ont toujours besoin d'être formés. Voilà tous ces facteurs qui interviennent dans le coût d'une poche de sang qualifiée. Pour donner un exemple, nous avions fait il y a 3-4 ans une étude sur ce que coûterait une unité de sang dans la ville de Kinshasa. Après ayant subi tout ça, qui est bonne à être utilisée chez la personne.
De la sensibilisation, matériel pour l'événement, qualification, conservation personnelle.
Tout à fait. Et ça coûterait entre 45 et 50 dollars.
Une poche de
sang. Une unité de sang. Donc 450 ou 250, puisque les manipulations sont les mêmes. Et donc, voyez-vous, telle personne, qui est capable pour faire face à ça. Et donc, ce sera toujours subventionné. Il faut une participation. Quand nous demandons 10 dollars, les gens participent. C'est-à-dire que les gaps de 40 dollars sont payés par quelqu'un d'autre. Qui les paye? Le mieux serait que le gouvernement les paye régulièrement. Il faut faire des efforts pour qu'il les paye. Mais la coopération, le partenaire au développement, et qui est derrière ces partenaires de développement? C'est leur population. C'est peut-être les paysans chinois, les paysans, je ne sais pas moi, le belge, et qui contribuent à ce que, moi, lorsque je fais un accident, qu'on me transfère
à Kinshasa,
et que ces sangs-là soient testés, soient gardés, soient conservés. Et donc, on ne peut pas donner gratuitement, c'est pas possible. Je viens d'énumérer, il faut que les gens participent, et nous avons besoin de participer. Et ces prix que j'ai donné, c'est partout, en Afrique, partout. Et alors, il y a des pays où l'évaluation du coût coûte 80 dollars, je crois en Europe, 80 à 120 dollars, et c'est énorme. Et donc, nous devons tous participer, et ça a un coût, et tout acte médical, tout acte de santé a toujours un coût, il faut que quelqu'un paye quelque part. Les actes gratuits, ça n'existe pas.
Voilà. Une question de Mbandaka, Alexis Kiteya, qui voudrait savoir, lorsque l'on tire le sang chez les donneurs, bon, lorsqu'on prélève le sang chez les donneurs, est-ce qu'on ne crée pas là un déséquilibre chez les donneurs? Donnez des précisions, docteur, je vous en prie, écrit-il. Non, on ne retire pas plus de 10 du sang de la personne. Et les précisions que je voudrais donner, c'est qu'il y a toujours du sang en réserve. Vous regardez un peu le nanomolé qu'il y a au niveau des veines, des valvules, qui sont des petits réservoirs que le sang qui peut être mobilisé en un rien de temps. Et il y a ce qu'on appelle l'équilibre du milieu intérieur. Automatiquement, la petite quantité de sang que vous donnez est remplacée. L'organisme mobilise et alors il se met dans un processus de reproduire votre globule rouge. Et donc, donner régulièrement son sang 3 fois pour une femme, 4 fois l'an pour un homme, ça ne porte vraiment pas à conséquence. Au contraire, on se sent d'autant mieux, on se sent mieux équilibré dans son corps, dans son cerveau, dans sa tête, dans sa personne, que j'ai donné mon sang parce que j'ai contribué à sauver des vies humaines. Et bon, voilà.
Vous nous avez dit 3 fois pour une femme, 3 fois l'an pour une femme, 4 fois l'an
Oui,
pour un homme, ça veut dire?
bon, ça veut dire que c'est la différence physiologique entre l'homme et la femme. La femme, quand même, qui périodiquement, du fait des menstruations, et elle perd, donc, elle en a besoin, et la besoin, elle ne peut pas aller au-delà. Et donc, l'homme a aussi un volume sanguin qui est un peu plus important que le volume circulant que chez la femme.
Oui, n'y a-t-il pas
Et donc,
de...
tous les
Oui.
3 mois,
Oui.
pour
Pour un homme,
pour un homme,
il donne son
Mais il
sang.
peut même aller donc tous les 2 mois et demi, en tout cas tous les 3 mois.
OK.
Ok. En
Et la
moyenne.
femme pour tous les 4 mois.
Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences physiologiques ou sur la tension artérielle chez quelqu'un qui donne régulièrement son sang? Il y a des choses, des questions, des gens qui se
Non,
disent.
absolument, absolument. Il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est plutôt dans l'autre sens. Et les gens disent, voilà, j'ai des maux de tête. J'ai une tension qui est élevée, je vais donner mon sang pour la baisser et pour faire diminuer. Non, ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup de gens viennent viennent donner du sang, se présentent alors que ce n'est pas le cas. Donner son sang, est-ce que ça peut entraîner des pics d'hypertension? Non. J'ai dit, les pics d'hypertension, ça peut être dans le cas de stress. Or, la personne, lorsqu'elle vient donner son sang, il est dans un environnement tel que la confiance, l'entretien, d'en faire de sorte que l'acte, y compris la piqûre, l'injection pour le prélèvement du sang, n'auront pas de conséquences parce que la personne est préparée par rapport à ce qui l'attend. Le mécanisme qui entraîne l'hypertension sont tout à fait autre chose qui se passe au niveau des vaisseaux, au niveau du cœur. Ça n'a rien à voir avec ça.
Alors, ça revient cette fois-ci de Mbandaka, mais plus Alexis qui dit que bon, il est bien d'accord qu'il y ait du sang en réserve, mais à force de le faire tout le temps, l'organisme ne sera-t-il pas condamné à le faire jusqu'à la fin de sa vie? Précision, tous les 3 mois pendant toute sa vie, ou tous les 3 mois et puis un beau jour, on peut arrêter et ne pas avoir de conséquences négatives lorsqu'on a déjà imprimé cette fréquence à son corps.
Oui, l'avantage avec lorsqu'on est donneur régulier, c'est qu'on est vraiment en contact avec le milieu médical. Et donc, quelqu'un qui, tous les 3 mois, tous les 4 mois, vient donner du sang, c'est quelqu'un qui s'est fait examiner aussi nos donneurs. C'est vraiment un service que nous avons. Donc, il y a un entretien, il y a une anomalie. Bon, on ne peut pas donner du sang, on l'exclut temporairement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette anomalie? À ce moment-là, la personne est branchée, va faire ce examen. Ça n'a pas de conséquence. Mais je pense que ce qu'il nous faut dans notre pays, c'est arriver à ce que je voudrais vraiment que ce soit. Et ça s'en sort, je le disais d'ailleurs aux étudiantes, c'est qu'on ait des clubs de 25. Club 25.
Pourquoi 25?
25, ce sont des gens qui s'engagent à un certain moment. Ils disent, moi, dans ma vie, je donnerai au moins 25 fois du sang dans ma vie. Et donc, si j'ai fait un tel engagement, ça signifie que je vais avoir un comportement conséquent. Je m'engage à sauver des vies humaines, au moins avec mon sang. 25 fois. Donc, ça peut être bon, beaucoup de personnes, parce que ce sang-là va être utilisé à beaucoup d'autres. Bon. Et alors, on a remarqué, ces clubs-là sont nés au Zimbabwe. Les gens en terminale de l'humanité s'engagent dans cette catégorie à donner du sang. Et on a vu que la prévalence du VIH-Sida, elle est presque nulle dans cette catégorie. Je dis presque, parce que nous sommes des êtres humains, hein. Presque nulle. comparé à la population générale, le Zimbabwe fait partie de pays d'Afrique où la prévalence est très élevée. Mmh. Et donc, voilà des gens qui ont adopté un certain comportement parce que sont engagés à donner du sang, à donner régulièrement le sang pour des vies humaines, mmh. et ils sont parvenus...
Et donc avoir un comportement responsable.
Voilà, ils sont arrivés à avoir dans leur groupe, dans leur club, bon, presque pas de VIH. Donc à ce moment-là, ils ont commencé à se faire confiance, à se marier, mmh. et beaucoup de mariages entre eux, finalement. Et donc, pour notre personne, à partir du moment de 18 ans, s'il commence à donner du sang, oui, nous allons continuer, il peut continuer. Nous avions primé des gens qui ont donné presque 50 fois mm-hmm. du sang mm-hmm. et qui continuent d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc, à la 65 ans, à ce moment-là, je crois qu'il aura le temps de regarder un peu, jeter un coup derrière lui et pour voir le nombre de personnes à qui il a contribué à sauver des vies humaines. Et c'est quelque chose à encourager.
On va clôturer par une dernière question. En une minute, si vous pouvez répondre. Quelle est la quantité de sang d'un homme normal? C'est Longesha Charles de Calémie qui pose la question.
Bon, vous les calculez, c'est en fonction du poids. Un homme, on prend, c'est un millilitre. Donc son poids, on le multiplie par 77. On a la quantité de volume total. Et chez la femme, ce sera multiplié par 67. Mmh. Voilà.
Ah, d'accord.
Alors maintenant, il a le volume normal. Et donc, nous prenons plus ou moins le dixième, c'est même moins du dixième lorsque vous faites ça. Mm. Et donc, il a largement du sang qui est en réserve dans son organisme et pas de problème pour le problème de santé.
Voilà, docteur Moussongela, médecin directeur du programme national de lutte.
Les
transfusions sanguines.
Et on dira même du centre national, parce que c'est dans tous les pays, ce sera le centre provincial, ainsi de suite.
Voilà, le centre national. Oui. Le centre national de transfusion sanguine. Merci beaucoup d'être venu redire merci à tous les donneurs bénévoles de la République démocratique du Congo.
Merci infiniment.
Merci, docteur.
Okapi Action. Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 12h de Kinshasa, avec Walter Moulombi.